Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Qui a déjà pensé qu'un météorologiste ne pouvait pas du tout s'intéresser aussi à l'énergie des hommes? On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, version homme.
Mohamed Fdel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de Femmes d'aujourd'hui. Comment ça va, Sidi?
Alhamdoulilah, ravi de partager ce petit moment avec vous.
L'alertech. Alors, vous êtes un homme plein de surprises. Ne serait-ce que quand on voit votre CV, est-ce que vous vous attendiez à vivre toutes ces surprises? Vous êtes de formation ingénieur. Aujourd'hui, vous êtes dans le mieux-être, le bien-être. Vous êtes dans quelque chose de beaucoup moins, on va dire, scientifique, beaucoup moins palpable que le monde carré de l'ingénierie. Est-ce que vous vous attendiez à devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est Mohamed?
À vrai dire, non.
Non.
En fait, ma vie n'a jamais été tracée. Même si je suis ingénieur, j'ai jamais planifié ma vie, moi. Même le fait d'être ingénieur était juste un cadeau divin qui est venu me rencontrer. Donc, ma vie est plus une succession de synchronicité qu'un plan bien établi avec une logique et avec un raisonnement. Donc, je suis plus dans une vie où je rencontre les choses que je croise, que je vis, que je partage, et puis je passe à autre chose quand il y a quelque chose qui se présente. D'ailleurs, j'ai fait 8 métiers dans ma vie, pas que l'ingénierie, parce que tous les 3 ans, je fais une longue formation et puis je change de métier. Donc, depuis mes débuts, je ne suis pas quelqu'un qui est sur quelque chose de vraiment établi, stable, etc. Je suis au gré des vagues et du vent qui vient dans ma vie et qui m'emporte là où je dois aller.
Alors, vous le dites comme ça, ça semble très romantique, dans le sens poétique du terme, bien sûr, mais le vivre et le faire vivre à son entourage, ça c'est différent. Donc on va y aller petit à petit. Quand vous dites tous les 3 ans, je fais une formation et je change de métier. Allez, on va les passer en revue. C'était quoi ces métiers, si Mohamed?
Alors moi, j'ai démarré en tant qu'ingénieur, ça a duré une année, parce que j'ai fait une formation de télédétection spatiale, donc j'étais ingénieur météorologiste, et je devais travailler sur les données satellitales, et ça n'a pas pu se faire en rentrant au Maroc. Et la première année, j'ai basculé vers ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, donc j'ai changé de métier, on m'a proposé un métier dans le management, et j'ai basculé vers le management dès la première année déjà. Mmh. 2 ans après, je passe une autre formation de longue durée. Je deviens consultant interne. En fait, j'ai travaillé au ministère de l'Équipement. Et c'était une école où Feum Zien Belfkermahmo avait créé un corps de consultants internes.
D'accord.
Et donc, dans ce parcours-là, tous les 2-3 ans, on nous proposait de piloter un projet nouveau pour la modernisation de l'administration. Et donc, chaque fois, on nous formait un nouveau métier, on pilotait le projet, on passait à autre chose. Et donc, pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai parcouru plusieurs métiers et plusieurs formations en longue durée pour pouvoir justement accompagner ces projets.
Ça, c'était dans les années 90?
90, début 2000, oui.
Début 2000.
Jusqu'à 2005.
Voilà. Donc, quand on dit que l'administration publique est rigide, vous avez vécu une autre expérience?
Ah non, du tout. Enfin, moi, j'ai fait partie d'un ministère qui était bon. Il faut dire que du temps de Feum Zien Belfkermahmo, c'était un des pilotes de la modernisation de l'administration publique. Donc, il a ramené beaucoup de choses chez nous au ministère et dans l'administration en général. Et donc, on faisait bouger les choses de l'intérieur plutôt que d'attendre des consultants qui viennent de l'étranger pour pouvoir faire bouger les choses. On était accompagnés par des organismes étrangers. Mmh. Et donc, on a modernisé de l'intérieur l'administration.
Ouais.
Non, pour moi, c'est l'administration a toujours été l'administration, pour moi, elle m'a porté de là où j'étais jusque là où je suis aujourd'hui et j'en suis très reconnaissant.
En même temps...
Même si j'ai pris ma retraite anticipée.
Oui. Non, bien sûr, quand vous dites oui. « j'en suis très oui. reconnaissant », c'est un apprentissage, c'est un parcours de vie. Et comme vous dites, ça a contribué à faire de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui.
Exactement.
En même oui. temps, après vos études, vous avez très vite accepté de passer à autre chose. Donc, mine de rien, comme on dit, la prédisposition était là. La prédisposition.
Je pense que oui.
Oui. Ouais, la facilité au changement. Ouais. Le changement vous fait pas peur, c'est Mohamed ?
Du tout, non. Je crois que c'est même un grain de transformation dans ma vie qui a toujours été là. Je passe de l'audit financier à l'évaluation de projets, au coaching, à la thérapie. Même aujourd'hui, je suis thérapeute énergéticien, mais un ami peut me demander de venir former sur le contrôle de gestion, j'y vais. Juste parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon parcours, et donc je suis dans le partage de tout ce que j'ai été, de par le passé, et ce que je suis aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de rupture, en fait. C'est plus une continuité, c'est plus des couches qui se mettent l'une après l'autre dans ma vie, et que je continue à vivre chacune dans ces dimensions et dans les moments où elles se présentent devant moi.
Oui, c'est une continuité, c'est vrai, humaine de votre vécu d'individu, d'être humain, mais de l'extérieur, on pourrait penser qu'il y a des ruptures, en fait, que c'est plus la même personne. C'est Mohamed qui travaillait au ministère de l'équipement, et bien c'est Mohamed aujourd'hui qui passait par d'autres jobs et pour aujourd'hui être également énergéticien. Les gens doivent se dire, mais celui-là, il est, pour le dire de façon, excusez-moi le terme vulgaire, il a complètement vrillé, il est passé à autre chose. Mais pour vous n'êtes pas passé à autre chose. Vous êtes dans une, dans une construction.
Non, du tout. Moi, l'énergétique, en fait, quand les gens entendent énergétique, ils entendent quelque chose qui n'est pas scientifique.
C'est ça, absolument.
Alors qu'aujourd'hui, j'ai fait une maîtrise en physique, en astrophysique, avant de faire ingénieur. Et je connais les bases scientifiques de l'énergétique. Donc aujourd'hui, dans mes clients, j'ai des ingénieurs, j'ai des médecins qui viennent faire de l'énergétique et je leur explique l'énergétique de façon scientifique. Avec ses bases de la physique quantique, avec le fonctionnement. Et quand je dis à quelqu'un, je suis capable de te dire tel événement est arrivé dans ta vie à telle date, ça n'a rien de ça n'a rien de
c'est pas de la voyance.
Du tout. C'est une capacité chez tout le monde d'aller creuser dans cette dimension quand on s'y prête et quand on s'y ouvre. Il n'y a aucune limite. Et je donne les bases scientifiques du fonctionnement. La physique quantique est la base de l'énergétique et qui est venue expliquer quelque chose qui fonctionne depuis très longtemps. L'énergétique existe depuis des millénaires. Les gens savent comment ça fonctionne. Mais ils n'avaient pas de théorie pour expliquer. Aujourd'hui, la physique quantique, qui est la science qui a bouleversé le fonctionnement du monde aujourd'hui, a des explications pour le fonctionnement de l'énergétique. Et donc, on donne le concept et des ingénieurs ou des gens qui sont enfermés dans leur mental arrivent à comprendre comment ça fonctionne et ils l'expérimentent. Le plus intéressant dans l'énergétique, c'est que ce n'est pas de la théorie, c'est que tu peux la faire expérimenter à chacun. Tu peux faire toucher quelqu'un son aura physiquement. Il le touche, il touche le tien et donc il n'y a plus de frontière entre la théorie et la pratique. On vit la chose et donc ça nous permet de constater qu'elle fonctionne et donc, on y adhère après facilement.
Alors, en même temps, à travers ce parcours, est-ce que vous avez perdu des gens ? Est-ce que vous avez perdu des proches, des amis ? Parce qu'ils ne vous cernaient plus, ils n'arrivaient plus à vous mettre dans une case ?
Non. Oui, il y a des éloignements par la force des choses, mais je pense que ça, c'est le commun de toutes les rencontres, parce que nos vies sont des rencontres. Mais perdre un ami pour ça, non, ça n'est jamais arrivé. Au contraire, c'est le petit bout de sel qu'on met dans nos discussions. Quand on rencontre un ami, il me dit « Ah, tu es encore là, tu fais encore ça, est-ce que c'est pas bizarre ?» Et on en parle et ça fait plus un sujet de discussion agréable qu'autre chose.
Ça fait pas peur aux gens quand vous dites par manque d'informations aussi. Je suis énergéticien, les gens se disent pas, il va me manipuler.
Non, ça, parce qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui ne veut pas l'être. C'est justement c'est ce qu'on explique, en fait. Dans l'énergétique, il y a beaucoup de jugements, beaucoup de superficiels, il y a aussi des charlatans, il faut le dire. Et donc, c'est un métier qui est totalement ouvert, qui est totalement à la disposition de tout le monde. C'est juste qu'il faut en comprendre les tenants et aboutissants pour pouvoir le vivre, le partager. Enfin, moi, j'ai fait des séminaires pour les parents pour qu'ils puissent connecter les émotions de leurs enfants. Je l'ai fait dans des écoles pour que les maîtresses arrivent à ressentir les émotions des enfants pour qu'ils ne les jugent pas.
Ouais.
Un enfant rêveur n'est pas un enfant qui est anormal. C'est juste que c'est un enfant qui ressent la souffrance autour de lui et il s'évade de cette souffrance en étant dans les nuages. Et donc, plus on le rassure et plus il est là, et donc moins il souffre. Et c'est comprendre le fonctionnement émotionnel des uns et des autres à travers l'énergétique qui permet justement de trouver des terrains d'entente. C'est pareil dans l'entreprise. Quand on gère... moi, j'ai été manager plusieurs fois dans ma vie. Quand tu gères les gens avec leur humanité, avec leurs émotions, tu peux obtenir le meilleur de chacun sans nécessairement le mettre dans la contrainte.
Bien sûr. Alors, en parlant d'environnement professionnel, vous avez été, entre autres, consultant RH, vous avez été directeur audit et contrôle de gestion, enseignant.
Oui.
Vous auriez aimé avoir tous ces outils à ce moment-là, à ces moments-là?
Écoutez, moi, l'énergétique, j'y suis depuis 10 ans. Ça fait 12 ans, en fait. J'ai rencontré l'énergétique dans ma formation de coach professionnel. Donc, c'était en 2011. Et ce qui m'a le plus parlé, c'est que j'ai vécu. Dans mon processus de formation, quand j'ai démarré ce qu'on appelle les constellations familiales, qui est une technique énergétique, ça m'a permis de guérir un asthme que je traînais pendant 24 ans en 8 minutes.
Incroyable.
Donc c'est pour ça que moi je suis un passionné, en fait.
Ouais.
Je ne partage pas quelque chose qui a traversé mon mental et qui a fait... des changements dans ma façon de raisonner, non.
Alors, si vous permettez...
l'énergie au plus profond de moi-même. Oui, allez.
On va creuser dans ce point-là par rapport aux constellations familiales. Et les gens sont peut-être aujourd'hui un peu plus familiers avec cette notion parce que, en fait, c'est ce qui a... C'est le cœur de la série Le chemin de l'Olivier, une série sur Netflix. Beaucoup de personnes ont regardé cette série. Et les gens se disaient... Ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste un... Est-ce que c'est que... Voilà, c'est de la pure fiction. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, les constellations familiales? C'est Mohamed.
Oui, au fond, oui. C'est juste que quel niveau... moi, je fais du recrutement avec des constellations familiales. En fait, la constellation familiale, on appelle la théorie du placement. C'est chaque chose a une énergie. Un poste a une énergie. Et donc, quand je parlais de mon asthme à moi, ça a pris 10 minutes. Et le prof nous a posé une question. Dites-moi un problème de votre vie et je le rattache à votre histoire familiale. Donc, moi, je n'avais pas, parce que j'avais fait 2 cursus de coaching, j'avais fait des thérapies, etc. Et donc, je n'avais pas un problème apparent à lui présenter, mais j'étais sous traitement de fond. Je prenais des corticoïdes matin et soir, je réveillais mes enfants la nuit avec ma toux. Et donc, je lui ai dit, est-ce qu'un problème physiologique, ça passe aussi? Mais lui, oui, bien sûr. Et je pose mon asthme. Et 10 minutes après, il me dit, mais il est très simple ton cas. Je dis, qu'est-ce qui est simple? Il m'a dit, tu as une mission de vie que tu n'accomplis pas. Et elle se manifeste contre toi sous forme d'asthme. Alors, le monsieur, il est polytechnicien, MBA Stanford. Donc, tout ce qu'il y a de rationnel aussi, le prof.
Mais alors, donc, comment il le sait? C'est ce qui est magique.
Justement,
en fait.
Les constellations familiales, c'est une capacité à se projeter dans le passé, en fait. L'énergétique, c'est que chacun de nous a un disque dur qui est le capital de tout son... En fait, c'est comme de la génétique. L'énergétique, c'est on se base sur la mémoire cellulaire. Et la mémoire cellulaire, c'est comme un disque dur dans lequel tous nos traumatismes sont stockés. Et donc, on va chercher dans ce disque dur, à travers des techniques, on va chercher l'information pour pouvoir la mettre en face de nous, pour la conscientiser, l'intégrer et puis la dépasser.
Mais est-ce qu'il avait moyen de vous dire quelle est votre mission de vie? Ou il fallait à ce moment-là...
Oui. Mais il se rattache à l'histoire.
Oui.
En fait, moi, je viens d'une famille de guérisseurs. Je suis nasséré d'origine, donc dans la Zawiya Nasseria, dans la tradition, c'était des guérisseurs. Et donc, il a fait le lien, même s'il ne connaissait pas mes origines. Mais il savait que ma grand-mère paternelle était guérisseuse, que mon grand-père maternel l'était aussi. Et donc, pour lui, c'était une évidence et il le ressentait en moi, en fait. Parce que quand tu te connectes à l'énergie de quelqu'un, tu peux identifier son potentiel aussi, en même temps que ses problèmes. Et donc, il a mis en évidence la chose. Bon, moi, je l'ai regardé de travers, comme je suis ingénieur et que j'avais besoin de comprendre. Donc, il me dit, tu as une mission que tu n'accomplis pas. Je le regarde de travers, je lui dis, dis-moi quelque chose de logique pour que je puisse te suivre.
Ouais.
Mais sa réponse était, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ok, je fais quoi alors? Ben, tu acceptes. Et il a travaillé avec moi pendant 10 minutes pour intégrer l'information dans la mémoire cellulaire.
C'est cet aspect-là que vous ne vouliez pas accepter, celui d'avoir aussi le baraka, comme on dit, Yek?
Exact, oui, oui. Je ne le savais pas. C'est même pas que je ne voulais pas. Je sais que quand j'étais gamin, je faisais disparaître la migraine chez les vieilles dames du quartier. Elles venaient chez moi pour me dire j'ai la migraine, je massais un peu le front et la migraine disparaissait. Et pour moi, c'était un jeu d'enfant.
Ouais.
Alors j'ai grandi, je suis devenu mathématicien et puis scientifique pur et puis et donc je me suis totalement éloigné de ça. Et c'est à 47 ans que ça revient dans ma vie, donc 30 ans après pratiquement.
Est-ce qu'il faut par exemple pour toutes les personnes qui nous écoutent qui aimeraient tester les constellations familiales, pour quelles raisons on les fait exactement? Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Pour toutes les raisons. Enfin, non.
Qu'est-ce qui peut pousser une personne? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à aller faire une séance de constellation familiale?
Juste qu'elle a une question qu'elle n'arrive pas à régler dans sa vie. Elle vit une chose, elle vit une maladie. Les maladies auto-immunes, dans la plupart des cas, c'est des maladies qui n'ont pas de justification scientifique.
Alors, c'est Mohamed Fdel. Vous comprenez que pour des scientifiques aussi, et pourtant vous êtes un scientifique, pour des médecins, ça peut être compliqué à intégrer que l'énergétique peut guérir des maladies, alors que la science, entre guillemets, se bat pour trouver des solutions, pour trouver des raisons aux maladies auto-immunes, à leur déclenchement, au traitement, comment calmer les symptômes, comment permettre aux personnes d'être en rémission, d'assurer cette rémission, etc. Vous comprenez que les gens ne... Une bonne partie des personnes qui sont rationnelles peuvent ne pas accepter ce discours.
Oui, mais enfin, moi, comment j'explique les choses scientifiquement? Parce que enfin, j'ai parmi ma clientèle des médecins aussi, qui ont compris que, justement, quand vous prenez l'histoire, vous avez Luc Baudin qui était oncologue, qui est une personne qui a beaucoup écrit sur l'énergétique, il était médecin oncologue. Il voyait que sa science de l'oncologie ne permettait pas de guérir ses malades, définitivement. Et donc, les gens récidivaient, ils revenaient, ou ne guérissaient pas du tout, malgré la chimio, malgré... Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher ça. C'est juste qu'il faut aller au-delà des symptômes pour chercher les causes. Et donc, ce monsieur est allé faire du chamanisme, il a fait des techniques asiatiques, il est parti partout et il est revenu avec une nouvelle science avec laquelle il accompagne ses médecins, enfin ses malades en oncologie. Et les résultats sont devenus meilleurs. En fait, moi, ce que je dis de la science, et pour faire le parallèle avec ce qu'on vit, la science en soi n'a rien de rationnel. Je vais peut-être surprendre en disant ça, mais depuis toute l'évolution de la science est d'abord une observation de quelque chose qui existe dans la nature, un phénomène. La pomme est tombée, quelqu'un l'a vue, et il a vu que la pomme est tombée, et donc il est allé chercher un modèle d'explication de la chute de la pomme. Et donc, un physicien vient mettre une équation sur un phénomène qui existe déjà. La nature, elle existe par ces phénomènes. Donc, ce physicien vient, il donne une explication scientifique à cette chute de la pomme. Après, un mathématicien, et c'est là où vient la théorie cartésienne qu'on croit comme science absolue, mais qui ne l'est pas du tout, le mathématicien, il vient et il élabore un concept scientifique. Mais depuis toutes les premières sciences, chaque fois qu'un mathématicien voulait montrer quelque chose, il faisait des hypothèses, qu'on appelle les postulats en mathématiques. Pendant toute notre vie d'élève, on nous a dit le postulat de base pour ce concept-là est que, qu'est-ce que c'est un postulat en science ? C'est une vérité que je considère comme vérité sans pouvoir le prouver. C'est la foi. Donc un mathématicien, il part d'un principe de foi qu'une équation pour lui est vraie, et ce n'est qu'à cet instant-là que son concept mathématique devient rationnel. Mais à la base, il y avait une hypothèse de foi. Et donc finalement, il n'y a pas de science. C'est pour ça que la science évolue. La science évolue parce que justement, à chaque fois, on vient remettre en cause un principe qui a été établi, prouvé, mais il y a un phénomène qui vient et qui nous dit « Ah, l'équation ne respecte plus. » Et donc, on remet en question. Dans les années 70, on parlait du lait comme quelque chose de bénéfique. Aujourd'hui, on parle du lait comme un poison. Et donc, c'est toujours de la science.
Ouais.
C'est juste qu'on ramène d'autres éléments de compréhension. Et donc, finalement, la science n'a rien de rationnel dans son fondement. Comprendre que quelque chose est dans ma vie n'est pas la résoudre. Donc, la conscience, c'est la constatation et la connaissance de l'existence de la chose. La transformation nécessite une intégration énergétique et une acceptation de l'incident au moment où il est arrivé. Donc, en énergétique, on va dans le passé avec l'enfant, guérir la plaie qui a conditionné sa vie. Et ce n'est que lorsqu'on l'a guérie, à l'instant où elle s'est produite, parce que un traumatisme, c'est quoi ? C'est une émotion qui n'a pas été acceptée au moment où elle arrive. Et donc, elle est refoulée. Donc, prendre conscience, ce n'est pas
guérir.
Prendre connaissance. Voilà. C'est vraiment aller vivre la chose et la traverser avec de l'acceptation. Mm. Et l'acceptation, c'est le fondement de la foi. Dans notre religion, le sixième pilier de la foi, c'est l'acceptation. Et dans toutes les techniques, qu'elles soient énergétiques ou autres, l'acceptation est l'aboutissement du règlement du problème. Quand on accepte, il n'y a plus de problème. Alors, donc, finalement, nous sommes dans le même élément. Oui, là-bas.
Oui. C'est Mohamed, la discussion avec vous, elle est formidable. Elle est reposante, justement. Sur quelle note on peut conclure, en fait, ce rendez-vous avec vous ?
Moi, mon principe dans la vie, c'est élargir le champ du possible. Ça veut dire qu'il ne faut jamais se fermer dans un cocon, dans une vision, dans quelque chose de limité. Le champ du possible est toujours plus large que ce qu'on croit, et donc justement s'ouvrir à toutes les dimensions de la vie, à toutes les possibilités qu'offre la nature, le divin, la foi, la prière, etc. En fait, quand on est ouvert, beaucoup de choses peuvent arriver vers nous. Et quand on se ferme, justement, on est coincé dans quelque chose et nous sommes en dissonance permanente avec cette chose.
Comment savoir qu'on est fermé ou ouvert ? Et comment s'ouvrir ?
Justement, quand on va mal, on est fermé. Et dès qu'on s'ouvre, c'est le chemin de la libération. Donc, quand on vit la même chose plusieurs fois, quand on a des maladies chroniques qui reviennent, quand on a des souffrances qui sont là en permanence, quand on a des incompréhensions dans notre vie qui conditionnent notre comportement et qu'on n'arrive pas à comprendre, ça veut dire qu'il faut se poser des questions et aller voir ailleurs quelle lecture je peux faire de ce que je vis. Et je pense que le champ est plein de personnes capables d'écouter, d'entendre, et quelle que soit la discipline qu'on prend.
Alors, c'est Mohamed Fdel, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui dans la version homme de femme d'aujourd'hui.
Merci à vous pour ce plaisir et puis à très bientôt, Sharpa.
À très vite, Céline. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.